إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. Je profite de cette occasion pour tout d'abord présenter mes condoléances à la droite de la communauté de l'UDDM compte tenu du décès de l'un de ses étudiants ou bien anciens étudiants, Abdou Adamou Mohamed Mbarak, la semaine passée. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'accompagne dans son paradis éternel. Deuxièmement, je remercie l'AMF pour l'organisation de ces gens, des rencontres qui sont très importantes à l'endroit de notre jeunesse qui sera, Inch'Allah, notre futur. Cette fois-ci, ils ont choisi un thème qui est très important, un thème d'actualité, un thème qui mérite de nous une méditation. C'est un thème qui a relation avec l'unité, la consolidation des forces, la mutualisation des forces. C'est un thème dans lequel nous sentons comment les musulmans peuvent s'unir et peuvent éviter toutes sortes de divergences. Je salue ceux qui ont choisi ces thèmes et je vais faire Inch'Allah de mon mieux pour donner ce que j'ai sur ce sujet. C'est un thème aussi qui est un thème bateau, si on peut le qualifier comme ça. C'est un sujet bateau ou bien un thème bateau, dans lequel personne ne peut évoquer tout ce qu'il doit dire par rapport à ce thème-là. J'ai oublié de vous dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème est très important parce qu'il porte sur mutualiser nos forces pour mieux servir l'islam et la communauté étudiante. Moi, je l'ai pris ainsi, mais je voudrais un peu élargir le thème jusqu'à ce qu'il touche la communauté islamique tout entière. C'est pourquoi, selon mon plan de présentation, j'ai prévu 4 points, puisque je ne vais pas tout donner et je ne vais pas tout aborder. Mais ce que je vois de très important, c'est évoquer ces 4 points-là. Premièrement, une introduction qui va porter sur les différentes formes de divergence que connaît le monde islamique aujourd'hui. Deuxièmement, nous allons voir, Inch'Allah, les versets et les hadiths sur l'obligation de l'unité entre les musulmans. Vous le connaissez tous. Troisièmement, nous allons rentrer, Inch'Allah, dans le vif du sujet qui sera porté sur les facteurs favorisant l'unité et la mutualisation des forces entre les musulmans. Quels sont ces facteurs-là? Parce que même si on veut s'unifier, il existe des facteurs qui vont nous encourager à atteindre ce but-là. Si ces facteurs ne sont pas réunis, on ne peut jamais s'unir. Troisièmement, nous allons voir le cas contraire. Quels sont les facteurs favorisant la division, la dispersion des forces entre les musulmans? Et enfin, je vais faire une conclusion générale qui sera portée sur les raisons de la victoire et des succès des musulmans dans le monde entier. Donc, dans ce que je vais dire, Inch'Allah, l'AMN va retirer ce qui a le plus grand rapport avec le thème initial. Tout d'abord, j'ai évoqué l'importance de ce thème-là. Le monde musulman aujourd'hui connaît la période de division la plus importante de son histoire. Il suffit d'écouter les informations pour savoir que les musulmans ne sont pas unis. Il suffit aussi de regarder la situation de Gaza aujourd'hui pour savoir que les musulmans sont dispersés. 24 mois de guerre contre un pays qui n'a que 7 millions d'habitants. Des Juifs. Et dans le monde entier, ils sont au nombre de 17 millions seulement. Contre combien de musulmans au monde? Dans le monde, nous avons 2 milliards de musulmans. Dans le monde arabe, nous avons 22 millions. Nous avons 480 millions d'habitants. Ces 480 millions d'habitants n'ont pas pu rien faire durant les 24 mois de guerre. Personne ne peut indexer Israël. Personne ne peut prendre une position contre Israël. Mais les autres peuples souverains qui ne sont pas musulmans d'Asie, de l'Europe et même de l'Amérique ont pris des défis et des décisions convaincantes vis-à-vis de cette guerre-là. Mais qu'est-ce que les musulmans du monde entier qui sont au nombre de 2 milliards ont fait pour stopper cette guerre? Il a fallu l'intervention de l'Amérique pour stopper cette guerre-là, avec un petit soutien du monde arabe, qui est composé de 22 pays. 22 pays arabes. Les pays musulmans dans le monde, ils sont au nombre de 57 pays, environ la moitié des pays du monde entier. Cela nous prouve que les musulmans n'ont pas un seul mot, Wahdatul Kalima. Ils ne peuvent pas agir pour leur intérêt et contre l'intérêt de l'ennemi. D'où l'importance de ces thèmes-là. Vraiment, je salue ceux qui ont choisi ces thèmes. Mes chers frères, en ce qui concerne mon introduction, je voudrais évoquer un peu les différentes formes de divergence que connaît le monde islamique aujourd'hui. Il existe plusieurs formes. Mais les formes les plus fréquentes sont au nombre de 4. Premièrement, entre les pays islamiques, les membres des associations islamiques et dans la communauté islamique elle-même, tu trouves des divergences politiques. Une lutte inutile pour le pouvoir seulement. C'est ce que nous vivons dans nos associations. Tout le monde veut gérer. Tout le monde veut être à la tête de l'association. Tout le monde veut intervenir pour ses propres intérêts. C'est notre grand problème. Deuxièmement, tu vas retrouver les divergences des visions de la gestion des affaires de communauté aussi. Si on réussit à avoir un dirigeant, un gestionnaire de notre communauté, maintenant, le second problème, ce sont les visions, les divergences dans les visions de gestion de ces affaires.
ses discordes et ses divergences sur le plan politique dans les pays islamiques ont des effets secondaires sur nos communautés, sur notre communauté, sur nos associations, sur nos pays, à savoir la dispersion des efforts. Parce que tout le monde veut combattre l'autre. Tout le monde veut être à la tête au détriment de l'autre. Parmi les effets, il y a aussi l'affaiblissement des rangs. On n'aura pas le même mot vis-à-vis de nos intérêts. Parmi ces effets encore, il y a l'exploitation de cette division par nos ennemis. C'est ce que nos ennemis sont en train de faire aujourd'hui. Exploiter nos divisions, nos divergences, pour atteindre leur objectif. Sur le plan intellectuel et médiatique, il y a aussi des problèmes, à savoir l'échange d'accusations entre les oulémas eux-mêmes. Si les oulémas eux-mêmes peuvent échanger des accusations, comment pas être la communauté? Il suffit d'écouter les prêches dans les radios pour voir comment les prédicateurs sont en train de s'insulter entre eux-mêmes. Pire encore, tu vas trouver ces insultes entre les imams, les intellectuels musulmans du même clan, de la même vision, du même secte, de la même association. On trouve aussi la diffusion des doutes et des soupçons. Il est très facile de trouver un oustaz en train de soupçonner l'autre. Comment vous pouvez gérer la société ainsi? Troisièmement, la déformation de l'image des opposants. Quand tu t'opposes à quelqu'un, tu vas tout faire pour salir son image dans tes waas, dans tes prêches, dans tes prédications. Cela sans doute a aussi ses effets secondaires, parmi lesquels on peut citer la propagation des doutes entre ceux qui écoutent tes prêches, entre la communauté islamique. La dispersion des esprits et l'affaiblissement de confiance entre les musulmans eux-mêmes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Sur le plan personnel et moral, il y a aussi des divisions de la communauté islamique. Cette division est causée par, pour la plupart, la jalousie, l'envie, al-hasad, et aussi l'égoïsme entre nous-mêmes. Cela aussi a ses effets secondaires sur notre communauté, à savoir la destruction des relations et la création d'hostilité au sein de la société. Cela m'amène à mon premier point, intitulé « Les versets et hadiths sur l'obligation de l'unité entre les musulmans ». Si vous conviendrez avec moi que la communauté islamique connaît aujourd'hui de toute forme de divergence entre elles, il nous faut revenir à la source initiale, qui est le Coran et le Hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le Coran a dit par rapport à l'unité, à l'union, à l'association, à la convergence des idées? Et qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Saint Coran, a dit « وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْحَبَ رِحُكُمْ » Ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et votre force disparaîtra. Est-ce que notre force aujourd'hui, elle est là? Est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'elle est palpable dans le monde? Quelle est l'association islamique dans le monde entier qui peut indexer Israël aujourd'hui? Qui peut dire non aux Occidentaux? Quelle est cette association? Où est ce pays-là? C'est pourquoi les commentateurs du Coran ont dit « Wattazhab rihukum ici, rihukum » Ce n'est pas la force seulement. C'est l'existence de l'État islamique qui va être en danger, qui va disparaître. « Wala tanaza'u » Ne vous disputez pas. Tant qu'il y a une dispute entre les musulmans, cela va attendre leur existence. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne sommes rien dans le monde entier. Excusez-moi du terme, mais c'est la réalité et c'est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous a rappelé à l'ordre, nous a montré les problèmes de la division et de la divergence. Ça va aboutir à l'affaiblissement des musulmans. Ça va aboutir aussi à la perte des efforts. Et cela, ça va aboutir encore à la propagation des hostilités et de la haine. Tant qu'il y a une division, tant qu'il y a une divergence du point de vue, quelqu'un va prendre des armes contre son propre ami musulman. Maintenant, quand nous constatons l'état de notre communauté, vous allez voir, ce sont les musulmans qui prennent les armes contre eux-mêmes, contre leurs frères. C'est catastrophique vraiment. Et c'est la leçon de ce verset-là qui est en train aujourd'hui de se matérialiser. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le verset et nous a montré le mal qui va suivre quand nous ne travaillons pas avec les leçons qui se trouvent dans ce verset-là. Parmi les versets aussi, nous trouvons un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu » Et attachez-vous fermement à la corde de Dieu. À la corde. La corde ici, ça veut dire quoi? C'est l'islam, n'est-ce pas? Il est unique et indivisible. La voie de l'islam, elle est unique. C'est pourquoi nous disons toujours « Ihdina as-sirata al-mustaqim » C'est un seul chemin. Dans toutes les expressions du Coran, tu vas voir tout ce qui concerne l'islam, tout ce qui concerne la religion. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'amène pas au pluriel. Inna dina inda Allahi al-islam. Lakum dinukum waliya din. Allah n'a jamais évoqué la religion au pluriel dans le Saint-Coran. Et même dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux jamais trouver le mot religion au pluriel. Ce qui veut dire que cette religion est unique. De Adam alayhi wa sallam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths aussi, nous a rappelé à l'ordre pour nous montrer l'importance de l'union et l'importance aussi de se mettre debout pour travailler ensemble entre les musulmans. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكل واحد de leur amour, leur miséricorde et leur compassion mutuelle sont comme un seul corps. Si une partie en souffre, le corps entier réagit par l'insomnie et la fièvre. Je pense qu'il n'y a aucun, aucun exemple qui peut ressembler à cet exemple pas donné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ressembler la communauté islamique a un seul corps. Nous sommes un seul corps. Tout ce qui touche l'autre te touche directement ou indirectement. Et tu dois compatir. Et tu dois apporter ton soutien à l'autre. Parce que son mal est ton mal. Ta bénéfice, sa bénéfice est un bénéfice aussi. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit aussi « Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunya » Ici, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ressemble les croyants comme un édifice, une mur. Il dit « Le croyant est pour un autre croyant comme un édifice, chaque partie renforce l'autre. » Chaque partie du mur, d'une mur renforce l'autre. Si tu enlèves une brique, tu vas voir que ça ne va pas. Parce que toutes les briques qui se trouvent dans cette mur-là est très importante pour l'autre. Elle appelle l'autre. Elle renforce l'existence de l'autre. Donc, renforcer l'existence de l'autre et renforcer ta propre existence toi aussi. Je pense que les hadiths et les versets du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les versets, les hadiths sont très nombreux dans ce sens-là. Je vais entamer le deuxième point qui est le plus important. Les facteurs favorisant l'unité en islam. Il faut savoir que l'unité, la solidarité entre les musulmans, ce n'est pas un simple objectif de l'islam, mais c'est une finalité majeure. C'est le plus grand objectif convoité par notre religion. Elle est aussi une exigence religieuse et une nécessité concrète de l'islam. Donc l'unité, ce n'est pas l'unité à l'islam, c'est fondamental. Ce n'est pas une simple chose qu'on peut s'y passer d'elle. C'est fondamental. C'est une nécessité. C'est une exigence et c'est une finalité. C'est pourquoi, dans les enseignements de l'islam, tu vas trouver des passages qui te confirment que cette unité est palpable, est sollicitée, est exigée aussi. L'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que nous adorons un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, te montre l'importance de l'union. L'unité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. Nous suivons un seul prophète. Cela nous rappelle que l'unité est très importante. Le fait que, quelle que soit ta tendance en islam, tu partages la même qibla avec l'autre. Cela veut dire que même s'il y a des divergences, nous partageons la même qibla lors de la prière. Quel que soit ton point de vue en islam, quel que soit ton secte, quelle que soit ton association, lors de la prière, tu vas adorer le même Dieu avec les enseignements du même prophète et tu vas t'orienter vers la même qibla. Quelle que soit votre divergence avec les autres. Deuxièmement, la fraternité islamique qui nous unit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement « Innama al-mu'minuna ikhwatun » Les croyants ne sont que des frères. Nous sommes des frères. C'est très bien détaillé dans le Coran et dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes des frères. Cette fraternité islamique, la conscience de cette fraternité islamique nous rappelle à l'union, à la fraternité, à la solidarité encore. Notre attachement à un seul Coran et à la Sunna d'un seul prophète nous rappelle aussi à l'ordre. Nous avons les mêmes sources bibliographiques. Nous avons les mêmes ulama, les mêmes salaf qui ont commenté les versets du Saint-Coran et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les facteurs encore, il y a les facteurs de valeur et de comportement qui est très important en islam. Tout ce qui amène la divergence de la marche vers l'union après les facteurs de la foi viennent toujours les facteurs de comportement. Le comportement est très important dans la religion islamique. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes très loin du comportement islamique. Pourquoi? Parce que tout le monde agit selon ses propres intérêts dans la cause de l'islam. C'est ça le plus grand problème. Alors que le comportement peut t'amener au paradis. Pas les autres travails qui sont obligatoires. Avec un bon comportement, tu peux te trouver dans un lieu, dans le paradis, que tu ne penses pas. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? C'est tes propres comportements. Tes bons comportements entre les musulmans. C'est pourquoi ici, en ce qui concerne les comportements, parmi les facteurs qui favorisent l'union entre les musulmans, on trouve la compréhension entre les musulmans et l'éthique de la divergence. La divergence a ses éthiques, a ses règles. Quand tu as un problème personnel avec quelqu'un, ça ne doit pas entamer ta relation entre ces hommes. Ça ne doit pas entamer son point de vue qui est vrai vis-à-vis d'un verset du Coran ou bien du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nos divergences personnelles ne doivent pas atteindre l'islam. Quand tu veux quelqu'un, tu dis que tout ce qu'il est dit est vrai. Et quand tu ne l'aimes pas, tu dis que tout ce qu'il dit est mauvais, est faux. Donc dans les divergences, il y a l'éthique. Il y a la déontologie encore. Et tout ça, ça doit être sur la base de compréhension mutuelle entre les musulmans. Parmi les facteurs qui concernent les valeurs et le comportement, il y a la propagation de la paix entre les musulmans. Il y a aussi la solidarité et la compassion. C'est quoi la solidarité ici et la compassion? C'est ressentir les souffrances des autres musulmans. Quand ton frère souffre, Tu dois tout faire pour l'aider. C'est ça la compassion. Est-ce qu'il y a la compassion entre nous maintenant? Nous cherchons les problèmes aux autres. Tu vas tout faire pour créer des conflits entre la communauté, de l'association dans laquelle tu te trouves. Cela est contre la solidarité rappelée par l'islam. Avec la solidarité et la compassion, chaque musulman va sentir que la communauté est avec lui. Mais sans la solidarité et la compassion, chaque musulman va se trouver seul devant ce problème. Il va créer un autre problème encore. Chers frères, parmi les facteurs qui favorisent l'union entre les musulmans, il y a les facteurs sur le plan pratique et sociaux entre les musulmans. À savoir la coopération sur les points d'accord. Quelle que soit notre divergence entre moi et toi, il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord avec toi. Donc travaille sur ces points-là et oublie les points de divergence entre moi et toi. Est-ce que c'est ce que nous faisons maintenant? Si tu as un désaccord avec quelqu'un, tu vas tout rejeter. Tout rejeter. Le dialogue constructif encore, ça importe aussi. C'est très important. Dans les groupes de WhatsApp, dans les pages de Facebook, quand quelqu'un publie quelque chose, regarde les commentaires. Quelle que soit la véracité de ce qu'il a dit, tu vas trouver des gens qui vont mal commenter. Quelle que soit sa véracité. Quelle que soit sa justesse, tu vas trouver quelqu'un en train de mal commenter. De trouver des failles pour l'offenser. C'est un problème réel dans le monde islamique aujourd'hui. Alors qu'il y a des questions qui ne méritent pas de discussion banales. Ce sont des questions banales. Il y a des questions plus importantes qui méritent de mutualiser les forces pour l'affronter. Mais nous laissons ces questions pour des questions secondaires. Donc, il nous faut des dialogues constructifs entre nous. Il faut connaître encore les risques communs. Il faut avoir cette conscience. Nous n'avons pas cette conscience. Le monde musulman est sur un risque aujourd'hui. Il y a beaucoup de risques dans lesquels se trouve le monde musulman. Il faut avoir cette conscience. Il faut savoir que notre division va profiter à qui? Qui va profiter de notre division? Ce sont les ennemis de l'islam. Donc il ne faut pas laisser une faille de laquelle quelqu'un peut entrer pour nuire à la communauté islamique. À cause de toi, à cause de tes propres intérêts. Donc, il faut avoir cette vision, cette conscience que l'islam est convoité par les autres, négativement. Ici prend fin les facteurs qui encouragent l'unité. Je vais entamer le troisième point, qui porte sur les facteurs qui encouragent la division. Quels sont ces facteurs-là dans la communauté islamique? Il y a les facteurs intellectuels que j'ai rappelés au début de mon intervention. Il y a les facteurs intellectuels et méthodologiques. Nous avons un sérieux problème dans la méthodologie des prêches, dans la méthodologie d'approche maintenant. Nous avons un sérieux problème. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appliquer une bonne méthode dans ses prêches. Udu ila sabili rabbika bil hikmati. Al hikma, ça veut dire la sagesse. Appelle à la voix de ton Seigneur avec la sagesse. La sagesse là est demandée aux mécréants, vis-à-vis des mécréants, des juifs. À plus forte raison, vis-à-vis de ton propre frère qui est musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a dit la sagesse à qui? À quelqu'un qui est le plus sage de la communauté islamique, son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le plus sage. Mais avec tout ça, Allah lui rappelle toujours cette sagesse-là. Tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, les qualifie par la sagesse. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata. Al-hikmata ici c'est la sagesse. Autrement dit, ce sont les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sagesse est très importante. Parfois, nous sommes hypocrites dans l'appel à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Excusez-moi du terme, mais parfois nous sommes hypocrites. Pourquoi? Quand quelqu'un veut faire la publicité de sa boutique, de ses affaires, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit le meilleur journaliste, n'est-ce pas? Ou comédien, ou animateur. Il choisit les mots et les phrases et les expressions qu'il veut pour attirer l'attention de qui? Des gens, n'est-ce pas? Pour acheter quoi? Ces marchandises, n'est-ce pas? Pourquoi toi, lorsque tu fais appel à Allah subhanahu wa ta'ala, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu utilises les termes les plus mal pour appeler quelqu'un? Tu le qualifies par tous les mots qui ne sont pas bons pour l'appeler. C'est parce que la religion ne t'appartient pas? C'est parce qu'elle est la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu fais ça? Dans ça, on comprend toujours notre hypocrisie. Quand tu appelles à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es franc. Tu es dangereux. Tu ne tolères pas. Mais quand tu appelles à ta propre cause, tu utilises les mots les plus respectueux et respectables. N'est-ce pas? Dire qu'il y a un qismatun diza. Ce n'est pas normal. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un ordre poussé pour les musulmans tout entier. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izzatil hasana. Wa la tujadilu ahli al-kitab illa billati hiya ahsan. Nous laissons Allati hiya ahsan. Nous travaillons avec allati hiya aqbah. C'est ça notre pratique aujourd'hui. C'est pourquoi quand tu qualifies quelqu'un par tous les mots, il ne va jamais te comprendre. Donc, il nous faut savoir que si nous voulons l'unité et la communauté islamique, il nous faut éviter ce qu'on appelle le fanatisme doctrinal. At-tashaddud. Lors de notre prêche. On trouve quelqu'un, son point de vue, quel qu'il soit, le point de vue de l'autre, lui, il ne regarde pas l'autre. Il regarde seulement ce qu'il a devant lui. Même si c'est faux. S'il est dit par quelqu'un qui respecte, qu'il respecte, il va le suivre. Tu trouves quelqu'un, il transforme une école religieuse, mazhab, en islam. Tout ce qui est de ces mazhab-là, ou bien de cette école, il va le suivre. Tout ce qui est contre cette école, il va le refuser. C'est le problème que nous vivons aujourd'hui. Deuxièmement, il faut éviter l'extrémisme de l'excommunication. Il ne faut pas qualifier quelqu'un par une simple divergence d'opinion, par des mots choquants. Maintenant, dans les radios, sur les pages Facebook, dans les groupes WhatsApp. Révisez les commentaires des gens vis-à-vis des prêches. Les droits de réponse entre les oulémas de la même association, du même secte, du même clan. Vous allez voir qu'ils sont en train de s'insulter. Il qualifie l'autre par tous les mots. C'est ça qu'on appelle l'extrémisme de l'excommunication. Quelqu'un que tu as accusé par la trahison de la religion d'Allah, quelqu'un que tu as insulté, maintenant l'insulte dépasse la personne. Elle atteint jusqu'à ses grands-parents. Pour lui que même ses grands-parents sont des mécréants. Un ulama dit à un autre que ses parents sont des mécréants. Qu'est-ce qu'il va gagner dans cette affaire-là? Il faut éviter encore les finalités de la charia. En islam, il y a ce qu'on appelle, ou bien dans la juridiction islamique, il y a ce qu'on appelle les finalités de la charia islamique. Maqasid al-sharia. Beaucoup des apprentis des ulémas ne connaissent pas maqasid al-sharia. Les apprentis, je les appelle comme ça, ainsi, parce que c'est un modèle qu'on prend à la quatrième année à l'université. Maqasid al-sharia. Quelles sont les finalités de la charia? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par at-tawhid? Pourquoi après tawhid vient la salat, la prière? Pourquoi après la prière vient le monde légal? Et ensuite, le hajj, et ensuite, le jeûne du mois de Ramadan, et ensuite, le hajj. Pourquoi? Quelles sont les ordonnances qui ont un statut inchangeable dans la législation islamique. Quelles sont les ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut pas commenter, qui n'ont qu'un seul sens? C'est ça qu'on appelle ad-daruriyat. Ad-daruriyat. Quelles sont les ordonnances qu'on peut interpréter? Et qui peut les interpréter encore? Tout le monde maintenant est commentateur du Saint-Coran. Tout le monde intervient dans la législation islamique. Et qui peut interpréter le Coran? Pour interpréter le Coran, il y a des sciences obligatoires que les oulémas ont dressées pour celui qui peut commenter le Coran. Ils sont aux environs de 14 sciences. C'est 400 ce que passe le Coran. Sinon, tu vas te déraper. Mais est-ce que nous pouvons appliquer ça aujourd'hui? C'est pourquoi notre divergence ne fait que commencer. Allah kiyam. Donc, il faut connaître les finalités de l'islam avant de répondre à quelqu'un. Avant de répondre à quelqu'un, il faut connaître qu'est-ce que l'islam a prévu par rapport à ça. Globalement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois laisser? Parmi les facteurs de division, on trouve aussi les facteurs psychologiques et d'éthique. On a parlé du comportement, dans les autres facteurs de l'unité qu'on a évoqués. Et ici aussi, on va les voir. Parmi les comportements qui encouragent la division entre les musulmans, il y a l'égoïsme et la soif du pouvoir. Les deux choses-là partent ensemble. L'égoïsme, la soif du pouvoir. Tout celui qui a ces deux caractères ne peut jamais rassembler les gens. Il ne peut que les diviser. Il y a aussi le suivi des passions. Le suivi des passions. Quelle que soit la véracité de ce que Imam Lambda a dit, moi je la refuse. Je refuse cette vérité-là. Parce que j'ai des points de divergence avec lui. C'est ça qu'on appelle le suivi de la passion, al-hawa. Il y a aussi les maladies du cœur, qui sont l'envie, al-hasad. Ils sont très nombreuses, ces maladies-là. Et chacun entre nous a ses propres maladies. Pour travailler avec lui, il faut connaître ces maladies-là. Quelles sont ces maladies? Pour travailler avec lui, il faut les connaître. Pour prendre des dispositions convenables. Parmi les facteurs qui divisent le monde musulman, il y a aussi les facteurs politiques et extérieurs. Dans les cœurs, on peut trouver la politique coloniale qui nous a divisés. Nous sommes très divisés maintenant à cause de la politique coloniale. Je trouve un frère et un autre, ou bien tu trouves quelqu'un qui ne parle pas à son propre père parce que son père suit le policier lambda, et lui, il suit Alpha. Il y a aussi les médias provocateurs des Occidentaux qui ne font que accélérer les divisions entre les musulmans. En conclusion, il y a des bases de la victoire des musulmans vis-à-vis des autres nations. Ces bases se retrouvent dans le Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces bases se résument sur trois points. Pour avoir la victoire vis-à-vis des autres, en tant que musulman, il faut avoir une force de foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette force représente le moteur et la motivation de tout un chacun. C'est la première force. La deuxième force, qui représente l'outil et les moyens, c'est la force de la science et du travail. La maîtrise de la science. Est-ce que le monde musulman a maîtrisé la science aujourd'hui? Est-ce que nous maîtrisons la science? Nous ne maîtrisons pas nos langues. À plus forte raison, la science. N'est-ce pas? C'est un problème. La maîtrise de la science et le travail constituent la deuxième force avec laquelle les premiers musulmans ont dominé le monde entier. La troisième force, c'est la force de l'ordre et de l'unité. Tant que les musulmans sont désordonnés, sont divisés, il n'y aura point de prospérité. L'ordre vient toujours avec l'unité. On ne peut jamais trouver l'ordre sans l'unité. Quand vous travaillez comme un seul homme, vous allez réussir. Vous allez réussir devant qui que ce soit. Mais quand vous êtes divisé, vous ne pouvez rien faire devant les ennemis. Donc, ce sont les trois forces qui favorisent la victoire des musulmans. Et je vais m'arrêter là pour laisser place à la discussion. Salam alaikum.
Takbir. Takbir. Jazakumullahu khairan, cher conférencier.